La crise, là, ça rend les riches plus riches.
Ça compte pas.
Et les pauvres plus pauvres.
Pour des prunes.
C'est un pote qui me l'envoie de Nantes.
Les yeux dans les oreilles.
La chronique de la culture en résistance.
Ce quelque chose, c'est quoi ? C'est une mutation, c'est quelque chose qui change. Et qui doit changer, certainement.
Aujourd'hui, on rapporte une histoire abracadabrantesque.
Comme toutes les salles de concert, le Ferrailleur à Nantes vient de rouvrir après presque un an de fermeture forcée. Toutefois, cette institution de la scène musicale de la région est loin d'avoir cédé au désespoir pendant ces longs mois de confinement et a même lancé un projet Covid-friendly pour que la musique continue. Pour en savoir plus sur cette télé du Ferrailleur, nous sommes allés au hangar à bananes rencontrer ceux qui l'ont faite.
Est-ce que vous pourriez vous présenter le Ferrailleur pour celles et ceux qui ne le connaissent pas ?
Oui, bien sûr. Le Ferrailleur, c'est une salle de concert qui existe sur Nantes depuis presque 15 ans. Ça fera 15 ans l'année prochaine. Et moi, je m'appelle François Montupé, j'ai 39 ans et je m'occupe de la communication du Ferrailleur depuis un peu plus de 10 ans maintenant.
Est-ce que vous pourriez nous rappeler l'histoire du dispositif de la TV du Ferrailleur ? Et est-ce que c'est quelque chose qui s'est inspiré au moins en partie des canapés concerts qui dataient d'avant la pandémie ? Ou c'est quelque chose de complètement nouveau ?
Non, tu as tout à fait raison. Alors en fait, la télé du Ferrailleur, c'est un projet qui est né à la suite du premier confinement en 2020, où on s'est réunis avec un certain nombre de personnes pour monter un collectif, le collectif Tracasse, qui est une association qui avait comme but de monter des événements pendant la pandémie, des événements culturels. Alors pas forcément des événements qui ramènent du monde, mais en tout cas des projets. Et parmi ces projets-là, il y avait l'idée d'utiliser la surface qu'on avait ici au Ferrailleur parce qu'il n'y avait pas de public. L'endroit où on se trouve actuellement, c'est normalement là où il y a le public. Et pendant la télé du Ferrailleur, on a donc construit un décor ici pour pouvoir tourner des émissions. Donc en fait, c'est parti à ce moment-là. Et c'est une idée qui a germé dans notre tête et qu'on a commencé à mettre en place au mois de décembre. On a commencé les premiers tournages au mois de décembre. Une fois qu'on a monté la scénographie, on s'est dit que ça ressemblait un peu à un plateau télé et qu'on allait du coup faire quelque chose qui ressemble plus à un format télé. Mais c'est effectivement la continuité des concerts canapés parce qu'en fait, on faisait déjà du streaming depuis pas mal d'années et donc on voulait vraiment faire quelque chose de différent. C'est-à-dire qu'on voulait pas filmer le groupe face à la scène comme on faisait déjà avant. Donc c'est pour ça qu'on est parti sur cette idée d'une scénographie particulière. Et donc effectivement, c'est aussi des suites des expériences des concerts canapés qui étaient des concerts en streaming quand certains groupes étaient complets ici qu'on retransmettait sur Facebook. Donc c'est parti là-dessus et c'est un projet effectivement qui a ensuite vu sa première émission à la fin du mois de janvier.
Comment vous avez choisi les groupes ? J'imagine que le critère de la distance géographique peut-être a été crucial.
Alors oui, parce qu'on était encore dans une période de semi-confinement, couvre-feu, où c'était compliqué de faire des choses. Donc les choix du groupe, la première émission, c'était important de le faire avec un groupe qu'on connaissait bien, avec des copains, qui allaient aussi un petit peu tu vois, faire la première avec nous, réussir, se planter aussi. Donc c'est pour ça qu'on est parti avec Water Tank, qui est un groupe local qui est très chouette, mais qui sont des copains. Ensuite, la deuxième émission, on savait qu'on voulait le faire avec eux, c'était Ultra Vomit, qui sont des copains aussi. Mais on avait besoin d'être un peu plus rodé pour le faire avec Ultra Vomit parce qu'ils sont plus connus, on voulait faire quelque chose de plus chiadé. Et ensuite, les choix des groupes, effectivement, le troisième c'était Bird in Row qui est un groupe de Laval. Et ensuite, c'était majoritairement des groupes locaux, effectivement. Donc, à la fois la couleur musicale et la zone géographique a joué pour le choix des groupes. Ouais.
Est-ce que vous avez eu des inspirations peut-être dans d'autres salles de spectacle qui ont pu mettre des systèmes similaires en place ou...
Absolument. Alors, on s'est inspiré. Moi, c'est des sujets qui m'intéressent beaucoup. Ça fait partie de mon travail aussi. Tous les aspects liés au numérique, au streaming, c'est des sujets qui m'intéressaient déjà. Donc oui, certainement, on a été influencé par pas mal de choses. Déjà, dans les premières émissions, on a essayé de mettre un petit peu d'humour et tout. Alors là, on était plus influencé par les trucs des années 90, comme la télé des inconnus ou comme les nuls, etc. Après, on est arrivé sur des choses un peu plus simples, un peu plus modernes peut-être, mais évidemment quand tu regardes l'émission tu penses peut-être à Taratata, tu penses peut-être tu vois au Saturday Night Live ou des trucs comme ça, alors sans bien sûr nous comparer à ces émissions là, c'est pas, mais modestement ça fait partie des choses qui nous ont inspiré. Ensuite dans les projets qui se sont faits ces derniers mois, ces dernières années, oui il y a eu pas mal de choses, je pourrais pas t'en citer certains en particulier, mais il y a eu pas mal d'initiatives plus ou moins similaires qui ont été faites par des salles et par des lieux.
D'un point de vue esthétique, sonore, c'est quelque chose qui s'est fait de manière collective, j'imagine, entre les différents membres.
C'est une très grosse équipe qui travaille sur ce projet-là. Donc effectivement, sur l'aspect visuel, il y a la scénographie, comment elle rend, mais aussi comment elle est éclairée. Et comment aussi elle est filmée, donc ça c'est toute la particularité. Et puis pour le son aussi, on a mis pas mal de soins. Notre régisseur ingé son Mika a essayé de faire un super son, donc c'est évidemment enregistré de manière très soigneuse, masterisé, mixé, pour avoir un rendu le plus qualitatif possible. On a essayé vraiment justement de proposer un produit fini, le plus propre possible avec les moyens qu'on avait, tantôt en termes d'image, que de montage, que de rendu sonore. Donc on a essayé de se donner les moyens de faire quelque chose de très qualitatif. On voulait faire une émission par mois, donc entre guillemets pas beaucoup, mais qu'elle soit le plus qualitatif possible. Avec des gens compétents, là en l'occurrence Chirac Design avec qui on a travaillé, c'est leur travail, c'est leur métier de savoir remodéliser des lieux, en fait, de les voir de manière différente, et c'est vrai que c'était un sacré challenge d'utiliser le volume qu'on avait pour faire quelque chose de vraiment très différent. Donc c'est le contraste de couleurs aussi avec une prédominance du blanc dans la scénographie qui tranche pas mal avec ce qu'on faisait avant. Donc c'est pas forcément quelque chose de facile, mais en tout cas c'était le challenge qu'on a voulu se mettre avec ce projet-là. En tout cas on était nous satisfaits du rendu. C'est l'avantage d'avoir cette config un peu à 360 degrés, c'est qu'elle te donne une impression de volume qui est très différente. Et comme on a fermé la salle en fait avec le camouflage blanc, il n'y avait plus de repères visuels et plus de repères en termes de distance quand tu connais le lieu. Donc c'est vrai que ça a donné, et puis tu filmes avec des grands angles parfois aussi, avec des choses qui te donnent un peu plus de surface et de volume. Donc c'était vraiment l'idée, on voulait vraiment que les gens ils ne reconnaissent pas le ferrailleur.
Vous avez organisé des adieux à la télé du ferrailleur avant la réouverture de la salle à proprement parler. Est-ce que vous entrevoyez un futur pour le dispositif ou est-ce qu'il est définitivement...
Là où on se parle, tu vois que la scénographie n'est plus là, on l'a enlevé et c'était quelque chose de très très massif, hein. Ça prenait vraiment tout l'espace, c'était très très important. Donc non, l'atelier du ferrailleur, ce projet-là, il est terminé, c'est sûr. Après, est-ce que dans le futur, on refera des projets de numérique? C'est certain. Qu'est-ce qu'on fera? Je ne sais pas. C'est sûr qu'on ne refera plus l'atelier du ferrailleur, mais on faisait du numérique avant, on a fait un projet là, on en refera certainement. Alors on espère que si on le refait, c'est pas parce qu'on n'est pas réouvert, c'est parce que on veut faire d'autres idées. Mais il n'y aura plus de télé du ferrailleur, c'est certain, en tout cas sous cette forme-là, mais certainement des projets numériques dans les mois à venir, les années, certainement.
Je voulais juste te demander s'il y avait quelque chose que tu souhaiterais ajouter.
Remercier les gens qui ont regardé le projet, la télé du ferrailleur. C'est un projet qui est né au travers de l'association Tracas et grâce aussi au soutien de la ville de Nantes et de la région. Donc c'est important de le mentionner et puis aussi les gens nous ont aidés avec des dons parce qu'on a fait une plateforme, si ça plaisait aux gens, tu pouvais laisser quelque chose et les gens ont été généreux. C'est un projet qui a fait 500 000 de vues en 5 émissions. On a récolté plus de 20 000 €. C'est assez énorme pour un petit lieu comme nous de faire 500 000 vues, tu vois, sur 5 émissions comme ça. Donc on est fiers, on est contents et puis on remercie tous les gens qui ont suivi le projet. Puis on espère les retrouver à la rentrée. Déjà, ils peuvent venir cet été, évidemment, il y a les concerts sauvages jusqu'à la fin du mois de septembre qui sont gratuits, qui sont en terrasse, c'est très important de le préciser. Et puis on espère retrouver les gens aussi à la rentrée dans la salle, dans une configuration plus classique. On verra ce que l'avenir nous réserve.
À distance ou pas, pour un concert, il faut des musiciens. Et justement, nous avons rencontré Heavy Heart, un des groupes qui a animé la télé du ferrailleur en enregistrant sur son toit. On les écoute tout de suite. We all failed, the cause spread and around, winter gales, settle.
Moi du coup c'est Louis, je fais de la guitare et du chant dans Heavy Heart du coup. On a monté ce groupe il y a 5 ans, c'est en 2015 avec l'idée de se rendre disponible le plus possible pour faire plein de concerts et de s'investir dans ce groupe à fond. Et du coup ça fait maintenant 6 ans que ça dure, même si ça a été un peu enrayé avec le Covid du coup, toute cette histoire.
Et moi je suis John, je fais la batterie depuis un an.
Donc vous êtes un groupe local, si je puis dire, qui vous habitez, vous travaillez à Nantes, dans la région.
Ouais, pour 3 d'entre nous, le 4e est à Paris.
Vous avez un rapport, une histoire avec le ferrailleur, est-ce que vous pourriez nous en parler? C'est un endroit où vous veniez déjà avant avant le concert que vous avez fait en live, quelque chose que vous connaissiez, vous êtes déjà produit peut-être par ailleurs?
Ouais, on a joué plusieurs fois en salle, et puis on avait fait aussi un apéro sauvage. Et puis oui, c'est un lieu qu'on fréquente, enfin qu'on a fréquenté même avant d'arriver à Nantes, quand j'habitais encore à Angers. On allait dans cette salle pour voir des concerts. Et ouais, c'est une salle qu'on affectionne beaucoup, de par les souvenirs qu'on y a, de par le format aussi qu'elle a, parce que c'est pas souvent qu'on voit ce genre de club de fait de capacité complètement indépendant, donc aussi indépendant dans sa prog, sans aucune subvention. Enfin, c'est assez classe quand même ce qu'ils arrivent à faire avec cette salle. Donc ouais, c'est un lieu qu'on affectionne beaucoup. On a été hyper content de faire partie du coup de l'épisode, aussi parce qu'on connaît aussi ceux qui s'investissent dans le lieu, et qu'on les aime beaucoup, et du coup c'est chouette de faire des choses avec des gens qu'on aime. Donc,
Est-ce que vous aviez envisagé l'idée d'un concert en streaming avant la proposition du Ferrailleur, ou est-ce que c'est quelque chose qui c'est la salle, l'équipe qui est venue vers vous pour vous proposer ça?
Je crois que c'est la salle qui nous a proposé ça, mais nous on avait pensé de enregistrer en session live, un truc comme ça, pas forcément en streaming, c'est eux qui nous ont proposé, et le cadre il était génial en fait, de jouer sous le toit, et super beau. Et ils nous sont dit, on était le premier à le faire, quoi.
Ouais, tu fais la
chasse arrière. Du coup, on n'avait même pas une idée, on n'avait même pas toi en référence pour voir qu'est-ce qui se passe. On était juste curieux, et c'est super cool.
En fait, on avait contacté le Ferrailleur à l'époque. En fait, on sort un album le 8 octobre, et du coup, dans l'optique de faire la promo autour, on s'était dit qu'on allait faire des clips, et aussi ça aurait été cool de faire une live session, c'est-à-dire du coup voilà, de se filmer en train de jouer et de le sortir un peu au même titre qu'un clip en fait. Ouais. Parce qu'on aime bien l'énergie, on a un groupe live, on aime bien l'énergie live. Par contre, je crois je peux parler pour nous quatre en disant qu'on n'aime pas cette nouvelle mode qui dirait on fera des concerts complètement en streaming. Je pense que c'est quelque chose qui s'entend dans l'ère Covid, où on est tous reclus chez nous et du coup on pouvait pas faire ça, et on a quand même envie de vivre des concerts, donc on fait ça. Par contre, je sais qu'il y avait ça aussi, il y avait aussi les concerts payants qui se faisaient un peu comme dans la vraie vie, c'est-à-dire qu'on prenait nos passes en avant, on payait 20 balles tout pareil. Ça c'est quelque chose vraiment qui me fait un peu peur. J'ai l'impression que plus la technologie avance, plus on essaye de brouiller les frontières avec le réel, et qu'on essaye de tout faire pour qu'on puisse rester chez nous en faisant. Et ça, c'est pour moi, c'est les risques qu'il y a avec le Covid d'ailleurs, c'est de supprimer le monde d'avant et de tout faire depuis son canapé. Et ça, c'est quelque chose vraiment auquel on voulait pas se conformer. Et je pense que par contre, on était hyper contents de faire partie de l'initiative du Ferrailleur, qui est vraiment autre chose à notre sens, qui était du coup une émission de télé qui a vocation de remplacer un peu le temps donné, les concerts tels qu'on les connaît.
Vous avez commencé un petit peu à l'évoquer, mais qu'est-ce que ça change pour un groupe comme vous de se produire en stream? Comment on se prépare un concert sans public?
C'était bizarre, on n'était pas habitué, pas du tout habitué à jouer avec des caméras plutôt que de gens.
C'est désorienté ça.
C'est très bizarre.
Quand tu joues et que t'as un mec qui a la caméra c'est
ça,
bon.
Ça n'a rien à voir, avec le réel du coup. Ouais. Et du coup, il n'y a pas en préparation. Moi je trouve. Il n'y a pas une préparation différente. Bon, on ne s'est pas préparé du tout.
On a joué les morceaux comme des cons. Exactement. Comme on fait d'habitude. Hein.
C'est juste qu'au lieu d'avoir des gens qui connaissent le groupe ou ils découvrent le groupe, il y a quelqu'un avec une caméra qui te tourne en ronde. Mais c'est une expérience différente. C'est différent.
Après, pour le truc de scène, on a été habitué à jouer dans des endroits qui sont pas faits pour ça, qui sont pas faits pour des concerts. On trouve ça plutôt cool d'ailleurs, mais. Du coup ouais, on a nos jeux dans plein de squats où du coup bah effectivement il n'y a pas forcément de scène, on joue dans un coin de la pièce. Je pense qu'on est assez habitué à ce genre de truc et à s'adapter.
On est habitué à les salles vides aussi.
Aux salles vides aussi, on a fait quelques salles vides. On a fait notre... la vie du groupe, ça en fait partie, hein. On n'en parle pas beaucoup, mais ça en fait partie. Mais ouais, le fait de jouer tous les quatre et de pas jouer à un public, c'est un peu en mode répète, mais sauf qu'on joue quand même pour des gens qui nous écoutent, qui nous filment, qui vont nous regarder plus tard. C'est un rapport un peu bizarre, ouais.
T'as pas plus de pression.
Et vous avez eu des retours justement de votre public sur cette expérience un petit peu, des choses que vous avez pu lire peut-être en commentaire?
Ouais, je sais pas trop ce que c'est notre public, par contre il y a
les potes quoi.
Plein, ouais, des potes. Bah après, il y a plein de gens que je connaissais pas ou que j'ai rencontré qui m'ont fait: ah ouais, mais je t'ai vu dans le concert machin.
Oui,
ça, c'était cool.
Et ça c'est cool parce que aussi on était mis dans la émission, on avait un public différent aussi par rapport à cette émission de télé, parce qu'on était avec Bar Zero. Du coup, il y avait les gens, le public de Born Zero dans le même épisode qui découvrait un peu Eviart, parce qu'il y a beaucoup de gens qui écoutent Born Zero qui pas forcément connaît Eviart.
Pour le coup, c'est deux univers très différents, quoi.
Très différents, et du coup, c'est cool de voir le retour de ces gens aussi. Il n'y a pas eu le méchant sur YouTube qui dit c'est quoi cette merde. Au moins, je crois pas, mais
je crois pas non plus. Puis tant pis, au pire. Ouais, puis on est toujours content de faire des choses, même si les univers musicaux ils sont un peu, ça reste cohérent, mais c'est quand même pas les mêmes choses. On trouve ça cool de se dire on fait des choses avec des gens parce qu'on les aime et qu'on aime leur démarche et qu'on se retrouve dedans, et pas juste parce qu'on fait juste la même musique, quoi. Sinon ce sera un peu pauvre comme raison de faire des choses ensemble, quoi. Donc je trouve ça cool, même de casser un peu les frontières des genres, je trouve ça cool. Mais du coup, on était content de faire ça, cet épisode avec eux,
bien sûr.
Même si on s'est pas vu, c'est dommage.
Mais... ça c'est vrai, c'était virtuel.
Et alors maintenant que les lieux de culture ont réouvert, et le ferrailleur aussi, est-ce que vous avez déjà repris la scène? Retrouver le public en chair et en os.
Oui.
Bah, on a fait deux concerts du coup, ouais. Un au Ferrailleur et un autre à Tours où notre ami Brice et ses compères de Coaches Asso nous ont fait jouer dans une guinguette pareil au bord de Loire. Pour le coup, tout le monde était debout, il y avait pas de. C'était vraiment un monde d'avant, quoi. C'était marrant. Merci à vous pour l'interview.
Merci, merci à vous aussi.
Merci. C'était le dernier épisode de Ça compte pas pour des prunes, l'émission de la culture en résistance. Merci aux Ferrailleurs ainsi qu'à Heavy Art de bien avoir voulu répondre à nos questions. Rappelons d'ailleurs la sortie le 8 octobre de Closer, l'album du groupe Nantais, dont vous pouvez d'ores et déjà découvrir les clips et autres singles sur toutes les plateformes dédiées. Vous pouvez comme d'habitude réécouter la chronique en podcast en vous connectant sur le site de JetFM. Il est temps que nous laissions la place, mais surtout n'oubliez pas, ça fait pas les gros titres, mais ça compte pas pour des prunes.